Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
On parle nuit de noces cet après-midi. Une nuit de noces, c'est un moment magique, surtout au Moyen-Âge, où tout est fait pour vous mettre à l'aise, notamment le père de la mariée qui vous tape dans le dos en vous lançant
« Ah, jeune puceau, sois vigoureux et tâche de t'employer dès la nuit de noces. Un besognier, t'as bien aimé. »
Étonnamment, il y a eu parfois des blocages, des pannes. C'est ce qui serait arrivé à ce pauvre Philippe II Auguste devant sa promise Ingeborg de Danemark en 1193, une nuit de noces que va vous raconter dans le détail, et certainement avec pas mal de gourmandise, Stéphane Bern.
Ah, Philippe II, le grand, l'auguste Philippe, le roi conquérant, qui a largement étendu le royaume au cours de ses 40 ans de règne, le vainqueur de Bouvines, la bataille dont on dit qu'elle a donné naissance à la nation française, bref, qu'elle a fait la France. Pas le genre de souverain à se commettre dans des frasques conjugales, et pourtant, c'est le même Philippe qui a fait l'expérience d'une union encore plus rapide qu'un mariage hollywoodien, un mariage avec une princesse danoise, Ingeborg de Danemark, qui s'achève dès le lendemain de la nuit de noces, enfin presque. La vie sentimentale de Philippe Auguste n'est pas un long fleuve tranquille. Avant d'épouser à 28 ans celle qui nous intéresse cet après-midi, il a eu une première épouse, Isabelle de Hainaut, qu'il a déjà tenté de répudier. Après plusieurs années de mariage, la jeune princesse n'est toujours pas enceinte. Le roi décide alors de se séparer d'elle, mais elle ne se laisse pas faire. Isabelle de Hainaut ramasse sur son passage tout ce que la ville compte de gueux, de démunis et de lépreux et avance vers Philippe, escorté de cette improbable suite. Le coup de force fonctionne. Isabelle a montré que le peuple l'aimait et la soutenait. Le roi la reprend à ses côtés et l'enfant tant espéré arrive enfin en 1187. C'est le futur Louis VIII. 3 ans plus tard néanmoins, la reine Isabelle meurt en mettant au monde des jumeaux qui ne survivent pas non plus. L'héritier du trône, lui, est très malade. Un seul fils, en mauvaise santé, voilà qui menace fortement la succession. Philippe part pour la 3e croisade, mais à son retour, il sait qu'il doit reprendre une épouse. Et c'est sur une princesse danoise, la sœur du roi Knud VI, qui a pris la succession de Valdemar Ier, qu'il jette son dévolu. Les raisons sont sans doute politiques, parce que les Danois ont des prétentions sur le royaume d'Angleterre et cette alliance peut servir de moyen de pression sur l'ennemi héréditaire de la France. Le 14 août 1193, Ingeborg de Danemark arrive à Amiens. Elle a 18 ans, elle est superbe, avec son teint pur, ses longs cheveux blonds, en apparence tout est parfait. Le roi, de 10 ans son aîné, est sans doute un peu impatient et le mariage est célébré sur le champ. De la nuit de noces, aucun des deux protagonistes n'a laissé de témoignage précis. Le lendemain est organisée une cérémonie de couronnement et alors que tout le monde est resté sur ses bonnes impressions de la veille, le roi semble d'une toute autre humeur. Il est très agité, tremblant et pâle. On dirait qu'il va tomber raide sur les pierres de la cathédrale. À l'issue des festivités, Philippe annonce à la stupéfaction générale qu'il souhaite annuler le mariage et renvoyer la princesse dans ses pénates nordiques. On imagine aisément la consternation des conseillers du roi, un mariage si longuement négocié et expédié en moins de 24 heures. Certes, la répudiation est monnaie courante au XIIe siècle, mais jamais une reine ne l'a été en si peu de temps. Qu'a-t-il bien pu se passer? Philippe et Ingeborg, vite rebaptisés Ingeburg ou Isambourg en français, ne parlent pas la même langue. Ils n'ont pas dû donc se disputer. Les plus folles rumeurs s'échafaudent. Ingeborg a-t-elle mauvaise haleine?
À l'époque, ils étaient nombreux.
C'est ce qu'on a raconté.
Oui, dans ce cas-là.
Ça gênait moins. Oui. Son apparente beauté cache-t-elle un terrible vice? La jeune princesse n'est-elle pas aussi vierge que prétendue? Le silence du roi alimente les bavardages. On cherche en quoi la reine a pu déplaire au roi, évidemment. Mais ses défenseurs sont légion, on la dépeint comme une femme charmante, éduquée. Et si le problème venait plutôt de Philippe II? C'est une autre théorie. Philippe, tout Philippe qu'il est, se serait trouvé empêché dans sa virilité, incapable pendant cette fameuse nuit de remplir son devoir conjugal. Bien sûr, ça ne peut pas être totalement sa faute. Une légende terrible circule au sujet des nuits de noces. On dit que le diable en personne peut venir nouer l'aiguillette du jeune marié. L'aiguillette, c'est le lien, vous savez, qui permet d'attacher les hautes choses au pourpoint. Ah. Mais on comprend l'idée.
Oui, on comprend.
Oui, on comprend.
Oui. La petite aiguillette.
L'expression est ultérieure à l'époque de Philippe Auguste, mais l'idée est déjà présente. On pourrait en rire, mais elle a donné lieu à des accusations, à des tortures et des procès tout au long de l'Ancien Régime. Les maris dépités jetant la responsabilité de leur infortune sur le dos de pauvres bougres ayant assisté à leurs noces. Philippe, lui, décide d'accuser sa femme. Il va même utiliser cet argument auprès du pape pour tenter de faire annuler son mariage une fois que l'argument de parenté aura été rejeté. Pour une fois, bah oui, les deux époux ne sont en effet pas du tout cousins.
Ah bon ?
Une chose est sûre, au sortir de sa nuit de noces, et quoi qu'il s'y soit passé, Philippe Auguste développe une véritable aversion pour sa femme. Le 5 novembre 1193, il convoque ses barons et prélats à Compiègne pour obtenir l'annulation de ses épousailles. Soucieux de ne pas se fâcher avec leur souverain, ils acceptent. Ingeburg, de son côté, refuse de rentrer au Danemark et veut faire valoir ses droits. Ne supportant pas de l'avoir à ses côtés, le roi la place dans une abbaye du nord de la France où elle est retenue comme prisonnière. Évidemment, c'est un camouflet énorme pour le frère d'Ingeburg, le roi du Danemark, qui envoie des émissaires au pape afin de contester la décision française. La reine envoie elle-même un homme, Étienne, évêque de Tournai, qui a pris fait et cause pour elle. Elle écrit personnellement au souverain pontife. Hélas, Célestin III n'a pas l'énergie et peut-être pas le caractère d'entrer en conflit avec le roi de France. Il condamne la conduite de Philippe, mais bien mollement.
Beaucoup de choses de molles dans cette histoire, Stéphane.
Et oui, que vous dites, Mathieu. Ingeburg, dans sa prison, est au désespoir. Mais soudain, le pape meurt, laissant la place à son jeune successeur, Innocent III, beaucoup moins conciliant. On va le voir, Philippe Auguste n'est pas au bout de ses peines.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Drôle de nuit de noces, c'est le thème d'Historiquement Vôtre cet après-midi. Stéphane, vous venez de nous raconter que le roi Philippe Auguste a tenté de répudier sa nouvelle épouse, Ingeburg de Danemark, au bout d'à peine 24 heures de mariage, après une nuit de noces catastrophique dont on ne connaîtra jamais la véritable histoire. Pour vous, des soupçons pèsent sur une potentielle incapacité du roi à honorer son épouse. Autrement dit, Stéphane, une panne sexuelle, le roi bande mou. Mais la dite épouse bafouée n'a pas dit son dernier mot.
C'est vrai, Mathieu, que la pauvre Ingeburg n'a pas compris grand-chose à ce qui vient de se passer. À 18 ans, elle est probablement ignorante des choses de l'amour, mais elle a un tempérament étonnant. Elle refuse catégoriquement d'être renvoyée et elle revendique son statut légitime de reine de France. Philippe, lui, est désemparé. Il faut penser à l'ironie de la situation. Son père, Louis VII, a vu son union avec Aliénor d'Aquitaine annulée après 15 ans de mariage et lui n'y a pas droit après seulement 24 heures. Avec le pape Innocent III, les choses se corsent. Philippe Auguste refuse de reprendre son épouse. Pire, il se remarie avec Agnès de Méran, une cousine allemande dont il tombe cette fois très amoureux. Pour dissoudre son mariage, Philippe tente tout. Il prétend même que sa femme a choisi la vie monastique alors que c'est lui qui l'a emprisonnée dans un monastère. Mais Ingeburg de Danemark affirme de son côté que le mariage a bel et bien été consommé. Face aux questions très précises des enquêteurs, elle est formelle. Il y a bien eu, selon elle, mélange des organes génitaux. En janvier 1200, Innocent III frappe d'interdit le royaume de France. Alors c'est une punition terrible, Mathieu. Plus de sacrements, plus d'offices, plus de cloches. On ne peut plus communier. Vous voyez, les chrétiens sont désemparés.
Vous étiez complètement désorienté à l'époque, Stéphane.
C'est totalement inconcevable et intenable dans un pays si chrétien. La France fit ennemi de l'Église. Il faut attendre un an et demi plus tard pour que la mort de la nouvelle épouse du roi, Agnès, vienne apaiser la situation. Au fil des ans, le pape tente de rapprocher Philippe Auguste et Ingeburg, mais rien n'y fait. Ce n'est qu'en 1213 que Philippe Auguste libère Ingeburg pour enfin apaiser sa querelle avec le pape. Pour une seule nuit de noces calamiteuse, Ingeburg de Danemark aura passé 20 ans de sa vie en prison, dans des abbayes, des forteresses du royaume, et le plus souvent dans des conditions terribles. Au moment de mourir, peut-être pris de remords, Philippe finit par l'a nommé dans son testament, ma très chère épouse.
Europe 1, historiquement vôtre.